Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Reynald Sacher, bonjour.
Bonjour.
La Vendée vengée, le génocide franco-français, aux éditions Perrin, c'est une réédition. Ça fait 20 ans, bon anniversaire.
Merci.
Mais quel travail.
Oui, quel travail. C'était un travail de longue haleine, puisque ce deuxième livre, sur un ensemble qui comporte trois livres, ce deuxième livre, ça correspond à ma thèse d'État, qui a été soutenue à Paris 4 Sorbonne en 83, mais qui était le fruit d'un carottage sur un village brito-vendéen, la Chapelle-Basse-Mer, qui nous avait permis de créer les méthodes, et c'est cette méthodologie qu'on a extrapolée pour l'ensemble de la Vendée militaire et qui a donné ce livre, Le génocide franco-français, la Vendée vengée, qui a été publié à l'époque aux presses universitaires de France.
En avril 86, mais ce n'est pas ce qui vous a valu le prix de l'Académie française en 87.
Non, le prix de l'Académie française m'a été accordé pour la spécificité de mes recherches sur le village dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la Chapelle-Basse-Mer. C'était un carottage scientifique qui était ciblé sur un village vendéen par destination, mais qui était situé à la limite de la frontière brito-française. C'est assez compliqué tout ça pour les gens qui ne sont pas de l'Ouest.
Brito, c'est la Bretagne.
La Bretagne est française, donc la France. Il était situé sur la frontière du côté breton. En fait, c'était une frontière, imaginons, très forte, très structurée, avec une énorme forteresse. Si vous voulez avoir une idée de cette forteresse, il suffit de regarder le château d'Angers. C'est le même type de château. Et puis, qui a basculé du côté de la Vendée, en fait, quelques jours après l'insurrection. Et puis, troisième caractéristique, c'est un village ligérien, c'est-à-dire qui est en bordure de la Loire. Et malheureusement, je regrette l'écriture nouvelle, Chapelle Basse-Mer en trois mots. Chapelle, c'est Capellia, lieu où est déposé la relique, en l'occurrence une relique du voile de la Vierge, et Basse-Mer, ça n'a aucune référence avec la mer qui est à 100 km, c'est le nom du seigneur Bassamarus, c'est celui auquel appartenait la terre, et à la Révolution française on a voulu retirer cet aspect féodal, nobiliaire, et on a décomposé le mot Bassamarus en deux parties. C'est dommage.
Par quel talent avez-vous retenu l'attention de l'Académie?
Je crois que ils étaient surpris, les académiciens, qu'il y ait autant de données, autant de raisonnements sur un village somme toute banal, hein, un des nombreux villages qui constituent cet incroyable paysage de l'Ouest. Et ils ont été surpris par à la fois le raisonnement, les conclusions et la méthodologie et les données que j'ai pu récolter de par le monde.
Évidemment, tout cela concerne cette période douloureuse qui appartient aux heures les plus sombres de notre histoire, pourrions-nous dire, celle de la Révolution française, l'insurrection vendéenne, le génocide franco-français. Quand je disais travail titanesque, quel travail au début de cette émission, c'est parce qu'il n'a pas été facile d'éditer ce livre la première fois.
Alors, paradoxalement, si.
C'est la seconde édition, alors?
C'est, comment dire, en fait, c'est, les PUFs ont signé avec mon...
Non, mais vous avez des pressions.
Ah oui, c'était pour la soutenance de thèse.
D'accord.
Que j'ai eu énormément de pression pour pas que je soutienne cette thèse qui remettait en question la commémoration du bicentenaire de la Révolution, puisque j'ai soutenu ma thèse sur le génocide en 85 et déjà on se préparait à la commémoration de 1989. Et c'est juste avant. Mais le contrat avec les presses universitaires de France a été signé par Pierre Chaunu, je dirais presque avant la soutenance de thèse, tellement il était persuadé que ça serait l'objet d'un énorme succès littéraire, ce qui a été le cas.
Mais alors, cette soutenance de thèse, pourquoi autant de pression à votre endroit et quelles étaient l'ampleur de celle-ci?
Il était clair qu'on se préparait en 85-86 à vraiment faire une addition de fêtes fastueuses concentrée sur 1989 et qui englobait l'intégralité de la Révolution française. Donc, on était dans le mythe créé de toutes pièces par Michelet, une révolution propre que rien ne devait entacher. Et comme le disaient Pierre Chenu et Jean Meyer, la Vendée, c'est la tâche de cette Révolution française. Et le gouvernement, à l'époque, socialiste, un certain nombre de penseurs, notamment marxistes, ont tout fait pour empêcher ce travail, aussi bien la soutenance que la publication, et après, on connaît l'histoire.
Mais ce qui signifie, Reynald Secher, qu'il n'y avait pas de précédent, que cette période n'avait jamais été étudiée ?
C'est exact. La Vendée, dans sa globalité, focalisée sous cet aspect des choses, n'avait jamais été travaillée à l'université. C'était un sujet tabou, et on peut dire interdit.
Ça vous a valu évidemment votre carrière ?
Ça m'a valu ma carrière.
Puisqu'aujourd'hui, vous n'enseignez pas à l'université.
Je n'ai jamais été élu à l'université. On m'a expliqué pourquoi. C'est parce que j'ai commis ce crime.
Bien que docteur en histoire et ayant reçu
docteur
de très
d'état
nombreux
en
prix
histoire,
que
non, je ne peux pas enseigner en France, oui.
Alors, on va entrer dans le détail, si vous le voulez bien, de la Vendée vengée, le génocide franco-français. D'abord, peut-être une explication liée à l'orthographe qu'il faut tout de suite élucider. C'est venger, venger sans E.
Oui, alors ça fait partie de la mécanique intellectuelle révolutionnaire qu'on va expliciter plus tard, c'est-à-dire qu'on a débaptisé solennellement le 7 novembre 1793 la Vendée pour l'appeler département Vengée. Mais je vais expliquer la mécanique tout à l'heure, en expliquant, ça fait partie du génocide.
Mais pour quelle raison en soi cette attaque, si je puis dire, à la sémantique, à l'idée même du nom ? Il fallait rayer le nom en tant que tel ?
Oui, rayer le nom, parce qu'on partait du principe qu'un citoyen ne pouvait pas s'insurger contre la révolution bonne et généreuse. Seuls les non-citoyens, c'est-à-dire les non-humains, ça peut paraître incroyable comme raisonnement, pouvaient le faire. Conséquence, des non-hommes ne peuvent pas être propriétaires, donc ils ne peuvent pas avoir de territoire. S'il n'y a pas de territoire, il ne peut pas y avoir de nom. Donc la Vendée n'existe plus. Mais comme la nature a horreur de vide, on décide solennellement de lui donner un nouveau nom, département Vengée, c'est pas un jeu de mots d'ailleurs, hein, contrairement à l'apparence, pour exprimer à la fois cette situation de fait, il n'y a plus personne propriétaire en Vendée, il n'y a plus de département, et donc l'idée c'est de réoccuper intellectuellement et physiquement la Vendée en retirant la souillure qu'il y avait. Et je rappelle toujours
donc
que
la vengeance, elle vient du côté révolutionnaire.
Elle vient du côté
la révolutionnaire. La révolution s'est vengée de l'agression.
Non, il ne faut pas le prendre sous cette forme-là, sous cette définition.
D'accord.
Pour comprendre, le bourreau, celui qui œuvre à la guillotine, est appelé le vengeur. C'est-à-dire, c'est celui qui tue, mais c'est celui aussi qui purifie.
C'est ça, donc c'est bien la révolution qui se venge, en quelque sorte.
Ce n'est pas une vengeance, proprement dit.
D'accord,
c'est un nettoyage.
Un nettoyage, bon, très bien. Oui, parce que la révolution a été agressée moralement
dans
son essence même.
Elle purifie. Et donc, le concept de venger est lié à cette purification.
Comme les défanatiseurs pour les cristeros
au
Mexique.
Voilà, par exemple.
La Vendée, c'était à l'époque, il faut bien se le représenter sur le plan géographique, ça n'a rien à voir avec le département aujourd'hui.
Absolument pas. Comment dire, la Vendée militaire est une pure création révolutionnaire. La Vendée, proprement dit, n'a aucune existence juridique. Historique. La Vendée, c'est la rencontre de trois provinces, le sud de la Bretagne, dans le cadre du département Loire inférieure, Loire Atlantique de nos jours, le sud-ouest de la province du Maine et le nord-ouest de la province du Poitou, c'est-à-dire le nord du département de la Vendée et le nord du département des Deux-Sèvres. Grosso modo, c'est 10 000 km². Grosso modo, c'est 815 000 habitants et c'est 770 communes ou paroisses qui sont dans un immense rectangle qui va de Saint-Nazaire à Angers, d'Angers à Parthenay, de Parthenay au Sable-d'Olonne. Voilà la définition géographique, spatiale de la Vendée militaire. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sous la Restauration, Louis XVIII avait imaginé créer un nouveau département qui s'appellerait département Vendée militaire. Il est mort trop tôt.
Et ah, donc ça aurait pu.
Oui, absolument, tout
ça
était préparé.
Ça aurait pu avoir une survivance
absolument, départementale,
administrative.
Et tout était prêt, j'ai retrouvé tout le dossier, et Louis XVIII est tombé et meurt trop tôt.
Mais pourquoi le département actuel de la Vendée ne correspond-il pas vraiment à l'histoire révolutionnaire de la Vendée, que ce n'est pas le premier concerné par tout ce qui s'est passé?
Parce que la province du Poitou a été décomposée en trois départements en 1789. À l'ouest, le département de la Vendée, au centre, les Deux-Sèvres, et à l'est, la Vienne. N'est concerné par la contre-révolution que le nord de la Vendée. Le sud est contre la contre-révolution.
Et c'est très marqué.
C'est très marqué. Ah oui, oui, il suffit de glisser à travers ce département pour se rendre compte du point de rupture. C'est très, très curieux.
Comment expliquez-vous ces
et
points de rupture?
Et politiquement, ça s'exprime toujours à l'heure actuelle.
Et comment l'expliquer justement ces points de rupture qui peut-être séparent des villages entre eux?
Oui, même des villages qui sont séparés en deux. Hein. Alors ça s'est fait pour des raisons de circonstances, mais là on va rentrer trop dans les situations spécifiques locales, ce qui nous amène d'ailleurs aux causes globales, générales, du fait que la Vendée ait pris les armes contre la Révolution.
Tout le monde n'a pas pris les armes.
Non, tout le monde n'a pas pris les armes.
Et au-delà d'une certaine
limite,
on ne les prend plus.
Non, au contraire, on va se battre contre les contre-révolutionnaires et dans une même famille.
Et ça tenait à la façon dont la monarchie était perçue dans ces autres régions, ou ça tient à l'ancrage du catholicisme?
Il y a une addition de causes. Il y a des additions de causes qui sont liées aux familles, tout simplement, qui sont liées au village, à la nature de la gestion du village, ponctuellement, mais historiquement aussi. Et puis, bien entendu, à toutes les manipulations qui étaient mises en œuvre à l'époque.
Mais ce qui est... Avant d'entrer dans notre sujet, de parler du mémoricide en tant que tel, un mot auquel vous tenez particulièrement, la Vendée reste dans l'imaginaire aujourd'hui, peut-être dans l'histoire aussi, la seule région française qui s'est vraiment rebellée contre la Révolution.
C'est totalement faux. En 1793, en mars 93, on peut considérer que 60 à 65% du territoire national de la population française se sont insurgés contre le pouvoir central. Et je vous donnais quelques exemples. Ça peut être des régions rurales, c'est le Berry, mais c'est aussi une addition de villes moyennes, grandes. Je vous en citais quelques-unes, comme Lyon, Toulon, Bordeaux, Caen, etc. La révolte vendéenne n'est pas spécifique à la Vendée. C'est quelque chose que nous retrouvons non seulement d'ailleurs sur le territoire national, mais aussi sur les territoires occupés par la France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les populations prennent conscience du délire idéologique et des conséquences que la Révolution génère.
Et pourquoi c'est... Les autres parties du territoire français ne vont-elles pas laisser de traces vraiment dans l'histoire aussi marquante que celle de la Vendée? À partir de quand la Vendée écrit-elle vraiment son propre destin funeste?
Alors, en fait, la Vendée est effectivement la seule région qui ait duré dans le temps région insurgée. Puisque très rapidement, toutes les régions rurales qui se sont insurgées ont été réprimées dans le sang, et toutes les villes aussi. Alors pourquoi ça a duré en Vendée? Ça a duré en Vendée pour trois raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de grande ville sur cet immense territoire. Pas de grande ville, ça veut dire pas de grande caserne. Pas de grande caserne, ça veut dire pas de force de répression. Deuxièmement, il y a une identité qui va se construire très rapidement en Vendée militaire, identité issue du monde rural. Et en fait, tout le monde parle le même discours, même s'il n'y a pas la même histoire formelle, événementielle. Mais tout le monde, dans le cadre de l'événement, va parler le même langage et va réagir unanimement, pareillement. Et troisièmement, très vite, la Vendée militaire s'est organisée au niveau humain et au niveau matériel. Donc c'est une énorme organisation et la Vendée militaire est un no man's land historique, c'est-à-dire que c'est une région très paisible. Je vais vous donner quelques exemples d'auteurs qui ont exprimé cela. Joachim du Bellay, qui est issu de la Vendée militaire future de l'Irée, qui exprime parfaitement cela. C'est un pays angevin, c'est un pays ligérien, c'est un pays très serein, ensoleillé, etc. Donc, il n'y a jamais eu de réaction vive sous l'Ancien Régime, ce qui veut dire qu'il n'y a jamais eu de répression. Il n'y a pas eu de trace de répression. Conséquence, lorsque les Vendéens s'insurgent, ben, ils ne savent pas qu'il peut y avoir un jour une répression. Contrairement, par exemple, à la Bretagne, lorsque les Bonnets Rouges s'insurgent sous le règne de Louis XIV, la répression est telle qu'elle va marquer l'inconscient et le conscient de manière indélébile des Bretons, et que lorsque la chouannerie va commencer à émerger dans le cadre de la Bretagne, très vite, les anciens vont rappeler ce qui est possible. Et d'ailleurs, c'est très intéressant à étudier la cartographie de l'insurrection réussie en Bretagne, de l'insurrection ratée. Elle correspond à la répression faite par Louis XIV, qui est une répression épouvantable, et je ne peux que conseiller les auditeurs de lire ce qu'a écrit sur ce sujet, par exemple la marquise de Sévigné.
À tout de suite, Rénal Secher.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Au fil des pages, avec Rénal Secher, La Vendée vengée, le génocide franco-français, ce sont les 20 ans de cet ouvrage paru en avril 86, réédité aux éditions Perrin. Rénal Secher, on essaie justement de comprendre ce qui caractérise la Vendée par rapport à d'autres régions de France qui se sont insurgées. Et comment était perçue la monarchie française à l'époque ? Comme lointaine, comme une alliée fidèle ?
Il n'y a pas de spécificité de comportement, ça surprend évidemment quand je dis ça, de rapport entre la monarchie et le peuple. Souvent en 1789, tout le monde est monarchiste, monarchien qu'on disait à l'époque, et l'idée même qu'il puisse y avoir un jour une république en France était impensable. S'il y a 0,001% des Français qui puissent imaginer ça, c'est vraiment le maximum. On est critique vis-à-vis de la monarchie, paradoxalement parce qu'elle est trop présente. Elle est trop présente par l'impôt. Alors évidemment, ça nous fait sourire parce que quand on voit notre taux fiscal, qui est hallucinant, à l'époque c'est grosso modo de 2%. Bien. Elle est trop présente
2%
aussi.
2% seulement ?
C'est très faible. L'imposition en France est très très faible. Hein.
L'imposition par le régime civil ou vous comptez également l'Église ?
L'imposition globale.
Globale. Globale. Église plus...
Oui, c'est très faible. Hein. Et d'ailleurs, la Révolution va augmenter de manière considérable la fiscalité. Et c'est une des causes, d'ailleurs, de l'insurrection, des insurrections. Puis, trop présente aussi par le service militaire obligatoire, qu'on appelle la milice. Ce qui n'est pas du tout une invention de la Révolution française. Trop présente aussi par les corvées. C'est une autre forme d'impôt, d'impôt en nature. Donc, très tôt, on est critique vis-à-vis du pouvoir central, monarchique. On écrit au roi, qu'on l'on tutoie d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé des milliers de lettres en disant « si, on t'aime bien ». Mais vraiment, laisse-nous plus libres. C'est très curieux. Et le roi répond d'ailleurs. Hein. Il signe. Évidemment, c'est pas lui qui répond directement, mais répond à des pétitions, à des lettres, soit individuelles, soit collectives, par le biais de la fabrique, c'est-à-dire en fait de la structure municipale de l'époque, mais qui est de nature religieuse, etc. etc. C'est assez curieux le rapport qu'il y a entre le roi, la monarchie, mais c'est le roi proprement dit.
Il y a un attachement filial.
Filial. Et il y a un rapport de père à fils très précis. Et c'est bien pour ça que le terme de patrie est un terme important à l'époque. Et c'est bien pour ça que lorsqu'on exécute le roi, la population en France considère qu'au-delà du déicide commis, puisque le roi, c'est le lieutenant de Dieu sur terre, il y a un parricide.
Un roi s'est-il jamais rendu en Vendée ?
Jamais. Non, jamais. Jamais un roi n'est venu en Vendée militaire.
La Vendée a-t-il été concernée par toutes les fortifications que l'on peut voir
oui, absolument.
Le long de la côte atlantique ?
Oui, parce que une partie de la, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la future Vendée militaire est bretonne, mais l'autre partie elle est française. Donc de chaque côté de la frontière brito-française, eh bien vous avez une ligne Maginot, hein, de défense, et du côté breton et du côté français. Par exemple, Angers, et parallèlement à Angers, vous avez la chapelle Basse-Mer, Machecoul, etc. Donc vous avez une addition de forteresses, de donjons et de villes fortifiées.
Donc si je vous suis bien, Reynald Secher, un attachement filial au roi, une présence de la monarchie perçue bon, comme un peu trop...
Présent. D'ailleurs, on est favorable à la Révolution au début, mais on est favorable, je dirais, au concept anglais-britannique de la Révolution. En fait, ce n'est pas une rupture, c'est une évolution naturelle.
Et justement, c'est précisément ce que je voulais vous demander. Qu'est-ce que les Vendéens ont écrit dans leur cahier de doléances ? Est-ce qu'on a des indications précises
pour
les états généraux ?
Il n'y a aucune spécificité vendéenne. On trouve partout les mêmes discours. Alors souvent, on dit qu'on copiait les cahiers les uns par rapport aux autres. Je ne crois pas à cela. Hein. Je crois que tout le monde ressentait les mêmes mots, se heurtait aux mêmes difficultés et les ont exprimés comme ils les vivaient.
Vous nous avez dit tout à l'heure que l'insurrection est en partie liée au refus d'une fiscalité plus élevée. Est-ce que, si on devait faire un parallèle historique qui évidemment est très limité peut-être, hein, parce que c'est toujours très anachronique, on sait que beaucoup de personnes sont entrées dans la résistance pendant la guerre pour refuser le STO. Est-ce que beaucoup de Vendéens sont entrés dans la résistance pour refuser
absolument,
la Révolution ?
Mais absolument. La cause qui est à l'origine de l'insurrection vendéenne est très, très, très précise. C'est-à-dire que lorsque la France va déclarer la guerre au monde, il ne faut pas oublier que la Révolution en France, très vite, va devenir une révolution idéologique universelle. Donc, il y a deux concepts possibles pour établir la révolution à l'intérieur comme à l'extérieur. Soit, c'est tout le débat qu'il y a eu au début du XXe siècle entre Rosa Luxembourg et Lénine. Soit on fait la révolution à l'extérieur, par la guerre, on l'impose, et après on va l'imposer en interne, soit on la fait d'abord en interne et on va l'imposer à l'extérieur. Et en fait, on va déclarer la guerre à l'extérieur. C'est la France qui, de manière unilatérale, déclare la guerre au reste de l'Europe. Cette déclaration de guerre se traduit par deux conséquences. Premièrement, une agression, puisque la France va envahir les territoires circonvoisins. Mais les pays étrangers vont aussi se défendre. Ils vont refouler les troupes françaises à l'extérieur de leurs frontières et ils vont envahir le territoire national. Et là, le pouvoir central français décide un effort de guerre et entre autres un recrutement. C'est la loi des 300 000 hommes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette assiette générale définie, elle va être décomposée par département et ensuite décomposée par village. Et il faut savoir que le maire, qui est un fonctionnaire, est exempté du service militaire. Conséquence, il va envoyer sous les drapeaux tous ses adversaires. Bien sûr, théoriquement, il y a un tirage au sort, mais en fait, c'est lui qui choisit arbitrairement. Et en fait, lorsque le citoyen de base est retenu pour aller servir le drapeau, il a trois questions qui viennent naturellement à lui. Vais-je défendre un régime liberticide ? Deuxièmement, qui va défendre ma propre famille contre les excès de la dictature, de l'administration et du politique ? Troisièmement, moi-même, puisque un militaire est aussi un gendarme à l'époque, moi-même, vais-je pourchasser mon frère ? Eh bien, ils disent non. Et le seul fait de dire
ça, ce sont les trois questions qu'ils se posent eux-mêmes.
Bien sûr, bien sûr. Et dont on débat à l'intérieur des familles, à l'intérieur des hameaux, à l'intérieur des villages. On appelle village à l'ouest une commune. Bien. Et conséquence, ils disent non. Le seul fait de dire non, ils deviennent hors la loi. Ça veut dire qu'ils sont sanctionnables. Soit
comme
on les
déserteurs.
Exécute, comme déserteurs, soit on les exécute, soit on les déporte, etc. Conséquence, eh bien, ils vont se regrouper, ils vont s'unir, l'union d'un village, l'union d'une addition de village, l'union d'une addition de village, et ça donne la Vendée militaire.
La Révolution n'a pas su conjurer cette évolution en essayant d'éviter justement qu'ils deviennent hors la loi ?
Non, pas du tout. Vous savez, ils sont tellement sûrs. On retrouve ça un peu partout dans le cadre des 19e et 20e siècles, lorsqu'on a des délires idéologiques. Ils sont tellement sûrs d'avoir le monopole de la vérité qu'ils n'imaginent pas qu'on puisse être contre. Et puis à la limite, si le peuple ne pense pas comme il doit penser, changeons le peuple. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait en Vendée. Comme le peuple ne pense pas bien, on l'élimine, on met un autre peuple.
Alors Hélène Sécher, on se retrouve dans cette situation où le peuple refuse, ou du moins une bonne partie des Vendéens refuse d'aller au combat. Que se passe-t-il à ce moment-là? Ils se regroupent, ils s'organisent, mais avec qui, avec quoi?
Alors, en fait, il ne faut pas oublier que la Vendée militaire est une région très riche. Ça, c'est une spécificité de la région, de cette région. Et deuxièmement, c'est une population exclusivement rurale, qui s'est toujours, je dirais presque, autogérée avec ces structures, qui sont d'ailleurs des structures élues. Et c'est très intéressant de voir, par exemple, c'est dans le cadre des fabriques, hein, les élus sont toujours responsables de leur gestion sur leurs propres biens. C'est-à-dire que s'ils commettent une bévue dans la gestion, c'est à eux de payer. Imaginez si c'était le cas de nos jours, comment on ferait attention. Donc, tout le monde est élu, la femme participe au vote, etc. C'est la révolution qui va bloquer et interdire le vote aux femmes. Dans la civilisation traditionnelle en France, tout se fait à main levée et les femmes comme les hommes participent aux élections. Donc, en fait, une autogestion. Et lorsque on s'insurge, le pouvoir central va être chassé, l'expression du pouvoir central, mais il est très peu présent physiquement. C'est quoi? Le maire, le curé jureur, qu'on appelle tonton, c'est-à-dire le traître ou le truton, le garde champêtre, puis quoi comme policier? Très peu. Ça veut dire qu'on va chasser la structure municipale, on va la balayer, et on va remettre en place l'ancienne structure de gestion qui est la fabrique, et tout le monde va être élu, etc. Ensuite, lorsqu'on rentre dans la guerre civile, parce que la Vendée est avant tout une guerre civile, qui n'est pas une spécificité, je répète, on la retrouve un peu partout. On commence la guerre civile en mars. Cette guerre civile va durer de mars 93 à décembre 1793. La première partie, qui correspond à mars 93 et qui va jusqu'au 29 juin 93, correspond à un regroupement, une prise de conscience, à une organisation. Et comme on se méfie de tout ce qui pourrait représenter un ordre, comment dire, militaire, etc., qui n'est pas sûr, parce qu'on se méfie, par exemple, de la noblesse, on va élire en Vendée, je dis bien élire, un paysan qui va être nommé généralissime des armées de la Vendée militaire, c'est Catelineau. Et pourquoi les Vendéens se méfient-ils de la structure nobiliaire? Pour deux raisons. Parce que quasiment tous les nobles présents en Vendée militaire ont tous servi le pouvoir royal. Et dans l'inconscient des paysans, on se rend compte que l'administration qui servait le roi, c'est celle qui fait la révolution et qui va devenir très rapidement une administration liberticide. Puis la deuxième chose, la deuxième raison de la méfiance de la population vis-à-vis de la noblesse, c'est qu'il n'y a jamais eu un noble qui spontanément se soit mis à la tête des paysans insurgés. Aucun noble qui est devenu par la suite un grand militaire vendéen ne s'est spontanément mis à la tête des troupes.
Donc la religion n'a pas suffi à unir tous ces hommes?
Non, pas du tout. Vous savez, le problème religieux, on pourrait en débattre.
On va y venir d'ailleurs.
C'est un problème assez compliqué. Prenons l'exemple de Charette, qui est devenu un des grands généraux vendéens. Lorsque les paysans s'insurgent à la Garnache, autour de son château au fond de Close, ils vont tout naturellement voir le maître, c'est-à-dire le général Charette. Donc il frappe à la porte, respectueusement. Arrive le valet en disant: qu'est-ce que vous voulez? Mais on vient chercher le maître pour se mettre à la tête de la troupe. Et le valet dit: bah attendez, il n'est pas là le maître. Comment ça il n'est pas là? On l'a vu hier soir. Mais je vous dis qu'il n'est pas là. Attends. Piano, on rentre dans le château, respectueusement, on retire les sabots. Puis on commence à fouiller le château, puis on arrive dans la chambre. Le lit est fait, un paysan très pratique on trouve le lit, pose la main sur les draps, il dit: mais le maître est là, les draps sont chauds. Et on entend un petit bruit, on tire le lit et Charette est en chemise de nuit en dessous. Et on le prend lui disant: hey, maître, tu viens maintenant te mettre à notre tête. Si tu viens pas, on te casse la tête. Et Charette va y aller en désespoir de cause, parce qu'il ne croit pas, lui, à l'insurrection. Et d'ailleurs, l'histoire va lui donner tort.
Reinald Secher, merci. La Vendée vengée, le génocide franco-français aux éditions Perrin. On continue d'en parler. C'est la fin de cette première partie. Les émissions sont téléchargeables sur la médiathèque. Dans la seconde partie, nous allons aborder plus précisément la question du mémoricide.